Salut les rebelles intelligents, donc je suis actuellement avec Gaston. Salut Gaston.
Salut Olivier.
Et comme ton nom ne l'indique pas, t'es franco-marocain.
Exactement.
Parce que t'as aussi un deuxième nom donc marocain.
C'est ça, Hakim.
Qui est Hakim, voilà, ça fait déjà un peu plus marocain. Et écoute, on s'est rencontrés ici au mastermind que Srikanisset a organisé pour ses partenaires et certains de ses clients.
Exactement.
Et tu m'as raconté ton histoire et je trouvais ça extrêmement intéressant, donc je voulais que tu partages ça un peu avec nous. Donc déjà, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Donc tu vis au Maroc et t'as un business qui marche bien. Qu'est-ce que
Exactement. Donc j'habite au Maroc, j'habite sous le soleil du Maroc, face Atlantique, en bord de mer. Et donc j'ai deux activités. J'ai une première activité pour mon site principal qui s'appelle donc vivreaumaroc.com. Je donne des conseils pour les personnes qui souhaitent réussir leur nouvelle vie au Maroc en prenant le meilleur départ possible. Et une deuxième activité où j'accompagne des indépendants sur Internet à optimiser leur business en ligne sur Internet.
Okay. Voilà. Et aujourd'hui donc, tu es heureux, tu as un business qui marche extrêmement bien, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et c'est ça, c'est là où justement ça m'intéresse, où ça nous intéresse. À la base, qu'est-ce que tu faisais?
Donc, à la base, j'étais représentant commercial pour une grande entreprise dans l'est de la France, en Alsace. Et au tout début, je suis rentré chez eux, donc je m'occupais des contrefaçons. Je peux donner le nom de la,
bah oui, si tu
veux. Nom de la boîte, donc c'était chez Adidas, une super belle entreprise. Donc, je suis rentré chez eux pour m'occuper au début de tout ce qui était revente de produits de contrefaçon sur Internet. Donc, ce qui était plutôt cool quand on est né, qu'on a grandi au Maroc et qu'on a grandi avec les produits de contrefaçon et qu'après on a besoin de s'occuper de ça pour Adidas.
Parce que donc, ouais, pour ceux qui sont jamais allés au Maroc, ce que tu disais, c'est qu'il y a beaucoup de contrefaçons au Maroc.
Énormément.
C'est même une sorte de sport national.
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Et ça tu, la négociation.
Tu m'as dit, quand tu as fait l'entretien de recrutement, qu'est-ce qui a fait ouais. un petit peu la différence
et... la RH m'a clairement demandé, elle m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'on devrait vous prendre vous plutôt qu'un autre? Et je lui ai dit, écoutez, je suis né, j'ai grandi au Maroc, j'ai passé 19 ans au Maroc, donc je connais parfaitement bien le sujet. Des contrefaçons, j'ai grandi avec les projets de contrefaçon et puis voilà, ça permet de casser la glace, ça a permis de pouvoir approfondir la conversation et c'est comme ça que je suis rentré chez Adidas. Et donc je me suis occupé des projets de contrefaçon. Ensuite, de fil en aiguille, j'ai commencé à gravir les échelons et je suis devenu donc responsable commercial sur l'est de la France pour Adidas et Reebok. Sauf que chemin faisant, bah voilà, on habite en Alsace. C'est une belle région, mais il fait gris. Il y a cette scène qui je m'en rappellerai toute ma vie où un matin je me suis levé, j'ai ouvert les volets et là j'ai trouvé un corbeau qui était en train de manger du bout de pain sur mon balcon, qui me regarde en train de coasser. Et derrière il pleuvait, il faisait gris, il faisait vraiment pas beau. Et là je me suis dit, pff, mais qu'est-ce que je fais ici quoi?
Ça fait la scène de Game of Thrones là.
C'est pas loin.
Une tête corbeau avec les trois yeux qui vient t'annoncer un mauvais présage.
C'était pas loin.
Ça t'a vraiment fait un déclic cette scène-là?
Alors en fait, c'est un ensemble de choses. Donc il y a eu cette scène-là. Il y a eu aussi que dans la foulée, mon papa a eu quelques complications de santé. Et il faut savoir que moi, j'ai toute ma famille qui habite au Maroc. Donc, mais vraiment toute ma famille, il a eu des complications de santé. J'étais loin parce que bah, voilà, on est quand même à plus de quelques milliers de kilomètres de sa famille et des gens qu'on aime. Et malheureusement, bah, voilà, on ne peut pas poser des congés quand on en a envie, on ne peut pas partir. C'est pas forcément évident de gérer sa vie comme ça à distance. Donc il y a eu cet événement-là. Et ensuite, bah, voilà, le troisième événement, c'est vraiment un concours de circonstances. C'est justement que durant cette semaine-là, il y a Reebok qui nous a présenté une campagne de publicité qui tournait autour du concept des 30 000 jours où justement ils expliquaient que la moyenne de vie d'une personne c'était 82 ans à peu près et que ça équivalait à 30 000 jours. Et quand j'ai entendu ces 30 000 jours, j'ai fait le calcul, j'ai regardé combien j'en avais déjà consommé. Et là, je me suis dit, waouh, mais j'ai vraiment plus le temps là, il faut vraiment que je
profite. T'avais consommé combien alors?
J'avais consommé un peu plus de 10 000 jours. Donc il m'en restait 20 000. J'avais consommé
d'ailleurs,
un tiers.
Faites le calcul, vous ouais. pouvez le faire maintenant, mettre la mise ouais. en pause, c'est facile à faire. Vous multipliez votre âge par 365 et vous rajoutez yes. le nombre de jours dans l'année.
Ouais.
Et puis vous voyez à peu près.
Combien il vous en reste éventuellement.
Ouais, si tout va bien, que
si
vous arrivez jusqu'à 82
bien.
Et tout ça. Ouais.
Voilà. Donc du coup, de fil en aiguille, bah voilà, ça a été vraiment le gros déclic cette semaine. Hein. Ça a commencé à beaucoup cogiter.
Donc c'est rigolo, c'est quand même qu'à la base, ils ont mis une pub pour pouvoir ouais. trouver des clients, enfin pour voilà, convaincre des gens d'acheter. Ouais. Et toi, ça t'a convaincu de partir en gros.
Exactement, okay. exactement. Ça a vraiment été le déclencheur. Je pense qu'il y a des fois comme ça dans la vie des électrochocs qu'on a. Et comme je dis souvent, il n'y a jamais de hasard. Et là, voilà, c'est cet alignement de trois choses qui a fait que ça a été comme un déclic où je me suis dit, mais mince, c'est vrai que j'ai toujours été conditionné par mes parents. Ok, bah, travaille bien à l'école, réussis tes études et ton CDI et profite de la vie. Mais voilà, on se rend compte que ce n'est pas un aboutissement en soi. J'avais beau avoir ce CDI, qui était d'ailleurs vraiment bien, c'est une super belle entreprise, mais je n'étais pas heureux, je n'étais pas épanoui. Le Maroc me manquait, le soleil me manquait, ma famille me manquait, mes amis me manquaient, mon pays natal me manquait. Et j'avais besoin d'autre chose que de simplement aller vendre des produits de sport auprès de clients. Donc voilà.
Ça, c'est... Alors une fois que tu as réalisé ça, qu'est-ce que tu as fait? J'imagine que du jour au lendemain, tu n'as pas retrouvé une entreprise à succès.
Non, pas du tout.
Quelle était ta première étape?
Alors la première étape, si tu veux, ça a été de commencer à regarder un petit peu sur Internet ce qui pouvait se faire. Et c'est là que je suis tombé sur une des vidéos de Cédric Anissette. Et justement, il y avait le lancement d'un de ses programmes, quitter la Rat Race. Et j'ai rejoint le programme. Et pour moi, ça a été vraiment aussi un déclencheur. Après, je me suis posé énormément de questions. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a des personnes qui gagnent de l'argent sur Internet. Il y a des personnes qui voyagent, qui profitent de la vie. Ils ne sont pas limités à 30 jours de congés payés par an. Et là, c'est pareil.
Tu as découvert quitter la Rat Race après avoir eu le déclic ou avant?
Non, j'ai découvert après.
Ça, c'est intéressant. Donc, il y a quand même une synchronisation de l'univers avec tes aspirations. Ouais. Okay. Et peut-être que tu l'as découvert parce que tu t'es mis en quête de choses, de solutions.
Je pense que justement, il faut commencer à avoir ce genre de déclic, se mettre justement à la recherche de solutions alternatives, que ça soit via des vidéos, via des livres. Et justement, c'est là qu'on commence à cogiter sur tout ça et que le cerveau, je pense, il se met aussi, de façon peut-être inconsciente aussi, pourquoi pas, à chercher des solutions alternatives. Et c'est vrai que c'est là qu'on commence à percuter peut-être différemment sur une vidéo, une tagline, un article ou un livre peut-être qui va croiser notre vie. Et ça s'est passé un petit peu comme ça. Et c'est là où je me suis dit, mais attends, c'est dingue. Il y a des personnes qui gagnent vraiment leur vie sur Internet. Et je prends souvent cette métaphore où je compare ça un petit peu à Harry Potter. C'est que d'un côté, on a des moldus, des gens normaux qui sont salariés, métro, boulot, dodo. Et de l'autre côté, il y a des sorciers, des personnes qui font beaucoup d'argent, du gros argent, comme dirait Cédric, sur Internet et qui profitent de la vie, qui voyagent et qui sont libres géographiquement, financièrement. Et donc là, ça a été un gros déclic et c'est là que le marathon a commencé. Parce que c'est vraiment pas un sprint, c'est vraiment un marathon.
Et c'est important de le comprendre, tu veux bien le préciser. Ça peut prendre des mois, des années avant que le business soit viable et te permette de quitter ton job.
Exactement. Ça, c'est quelque chose de très important parce que techniquement, il faut se dire une chose avec le recul maintenant, c'est il faut considérer l'aventure sur Internet comme un business. Et comme tout business, moi, je pense qu'il y a deux possibilités. Soit tu investis du temps, soit tu investis de l'argent. Soit tu investis du temps, tu ne vas peut-être pas acheter des plugins premium, tu ne vas peut-être pas pouvoir déléguer ou automatiser, mais tu vas investir ton propre temps, c'est ce que j'ai fait, à lire des tutos, à essayer plein de techniques différentes, à passer vraiment beaucoup de temps, à apprendre. Soit sinon, si tu ne veux pas investir du temps, bah, tu investis de l'argent et derrière, tu peux te permettre d'avoir des plugins premium qui vont aller plus rapidement, où tu auras toutes les fonctionnalités dont tu as besoin. Et donc voilà, ça a été un long chemin. C'est comme ça que j'ai lancé le site Vivre au Maroc, parce que moi-même, j'avais envie d'aller vivre au Maroc. Et je me suis dit…
Et donc, tu es parti de cette envie-là et tu t'es dit, il y en a d'autres qui l'ont. Est-ce que tu as fait une étude de marché?
En fait, sincèrement, non. Tu sais pourquoi? Parce que j'avais tellement envie d'aller vivre au Maroc. Je me suis dit, OK, je vais lancer un site sur la vie au Maroc et je verrai bien. Et en fait, c'est vrai que c'était peut-être un peu risqué parce que final…
C'est vrai que normalement, il faut éviter de faire ce dont on a envie.
C'est ça,
et
c'est
plutôt se focaliser sur ce que veut le marché. Parfois, il y a une adéquation. Donc, c'était le cas en l'occurrence. C'est aussi de la chance. Voilà, normalement, il faut quand même faire l'étude de marché, s'assurer qu'il y a un potentiel économique et tout
c'est
ça.
Clair.
En l'occurrence, tu as de la chance. Il y a beaucoup de gens qui veulent vivre au Maroc, notamment des retraités français.
Et surtout, il y avait un énorme vide en termes d'informations. Un énorme vide, je veux dire, c'était difficile, même pour moi qui suis de double nationalité, de trouver des informations concrètes sur la vie au Maroc, les déménagements, les procédures fiscales, les cartes de séjour pour ceux qui sont concernés par ça, sur les loyers, il y avait un énorme vide. Donc du coup, moi j'ai dû passer aussi énormément de temps à rechercher aussi toutes ces informations-là. Il y a des personnes qui lancent des business sur Internet qui sont déjà expertes sur le sujet, donc pour elles, ça va être plus facile de créer du contenu. Moi, j'étais passionné par le Maroc, mais j'ai dû énormément me former, comment ça fonctionne la fiscalité franco-marocaine, comment ça fonctionne un déménagement à l'international. Donc c'est beaucoup de temps qu'on doit investir en plus du temps qu'on passe sur la technique. Et ça, c'est pas toujours évident. Donc ouais, c'était un peu risqué, mais j'ai choisi cette thématique-là parce qu'elle me tenait à cœur.
Et donc, tu as quand même fait une étude de marché, on va dire informelle, dans le sens où tu as vu qu'il y avait un manque de connaissances sur le marché. Ouais. Et tu t'es pas posé la question, peut-être que c'est parce que personne veut y aller.
Non.
Ok, ça c'est intéressant. Okay, donc,
Parce que moi, j'avais ce rêve d'aller vivre au Maroc. Je me suis dit, dans tous les cas, ces infos, elles vont me servir pour moi. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais partager mes infos, ce que je découvre sur un blog. Et il s'avère que le site, il a commencé à décoller au fur et à mesure.
Donc, tu as démarré par un blog?
Ouais, je démarrais par un
T'avais
blog.
Tu avais une chaîne YouTube aussi ou juste
non,
le blog?
Non, j'ai mis du temps avant de lancer
la chaîne
YouTube.
C'était en quelle année, ça?
Je crois que j'ai lancé la chaîne YouTube deux ans après le…
Mais le blog, tu l'as lancé quand?
2014.
2014. D'accord.
Donc tu vois, ça a mis du temps. Hein. En 2014, du coup, c'était écriture d'articles, parce que j'avais aussi ce syndrome de l'imposteur. J'étais aussi salarié à côté et du coup, je me disais, oh là là, si jamais les collègues au travail tombent sur ce site, ils vont me demander c'est quoi ce site de Blédard. Enfin, on se fait des films, on se fait beaucoup de films.
C'est clair, c'est comme quand tu fais ta première vidéo, tu te dis, mon Dieu, les gens, ils vont détester ma voix, j'hésite, ils vont jeter des tomates dans la rue.
C'est atroce.
Et en fait, tu te rends compte que tout le monde s'en fout, hein, grosso
tout
modo.
Tout le monde s'en fout, mais complètement.
C'est clair.
Il n'y a que ma mère qui lisait mon blog.
Exactement, c'est ce que je dis toujours. Au début, ta mère qui regarde ce que tu fais, de toute façon.
Et avec ma mère et mon père qui lisaient.
Ils trouvaient ça génial.
Ils aimaient. Ils disaient, ah, mets des photos, écris en gras, tout ça et tout. Donc c'était cool. Par contre, comme l'a dit Olivier au début, c'est pas évident parce que on travaille. Et moi, j'étais salarié à côté. Donc il fallait faire les deux. Hein. On lance un business. Donc mes journées pendant les trois premières années, c'était tous les matins, levé 4h30. Je commence à bosser vers 4h30 du matin. Petite douche, petit café, on démarre à 4h30. Je bossais jusqu'à 7h. Ma copine se levait, donc on prenait le petit déjeuner ensemble. Et à 7h30, je me préparais pour attaquer ma journée et être au poste à partir de 8h30. Quoi. Donc, et voilà. Et dès qu'il y avait un petit moment, au bout d'un moment, on commençait à être conditionné sur l'autoroute entre midi et deux avant d'aller voir un client. Je faisais mon petit article le soir à l'hôtel quand j'étais en déplacement, encore des articles de la recherche. Et c'est pour ça qu'on parle de marathon, parce qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. C'est pas évident, c'est pas simple, mais il faut travailler dur. Et j'aime beaucoup une métaphore que Steve utilise. Il dit, vous devez choisir, c'est soit 40 ans de prison et éventuellement vous atteignez la retraite si elle est toujours là, soit c'est peut-être 50 bagnes, parce que c'est vraiment du bagne, mais derrière, après, vous êtes libre géographiquement, financièrement, tout ça, quand ça décolle, quoi.
T'as vécu ça comme un bagne, vraiment? C'était très dur?
Alors, tu sais, au début, c'est difficile parce que tu dois te conditionner, casser vraiment
casser
toutes
tes habitudes.
Ouais. Donc, c'est vraiment tout un conditionnement que tu dois reprendre. Et après, au bout d'un certain temps, tu te rends compte que tu as besoin de ça. Enfin, moi, j'aimais, dès que je postais un nouvel article, j'aimais regarder comment il était potentiellement accueilli, comment évoluaient les stats. Et en fait, ça devient comme un jeu. Ça devient comme un jeu avec des scores. On regarde son score en termes de visites, en nombre d'emails collectés. Après vient la phase du jeu où on commence à vendre ses produits. Et là, on commence vraiment aussi à kiffer parce qu'il y a de l'argent qui commence aussi à rentrer. Donc en fait, je l'ai pris vraiment comme un jeu, quoi. Et surtout que j'ai démarré avec d'autres infopreneurs, d'autres entrepreneurs du web. Donc on était là le soir.
Ah oui, c'est bien, vous échangez entre vous, ça vous permettait de ne pas vous sentir seul.
Ouais, énormément.
De chacun
ses
pôles.
Ça m'a énormément aidé.
Ouais, c'est important.
La force de la communauté, ça m'a aidé.
Et donc il y a aussi quelque chose de très intéressant que tu as dit, c'est que tu as trouvé du temps dans ta journée pour faire ça. Et la moindre pause, le moindre. Tu vois, et voilà, souvent les gens disent, mais moi j'ai pas le temps.
Non, il y en a
toujours. Vous pouvez être le cadre le plus pris du monde. Vous êtes Elon Musk, vous travaillez 100 heures par semaine. Si demain vous tombez sur l'amour de votre vie, bizarrement, miraculeusement, vous allez commencer à trouver du temps pour faire des dates avec elle, pour la voir, etc. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter le bullshit. C'est pas une question de temps, c'est une question de motivation. Parce que le temps, ça se crée. Et donc, tu vois, là, toi, tu as trouvé n'importe quel interstice dans ton emploi du temps, tu te mettais dessus plutôt que de checker Facebook, de regarder des vidéos de chat sur YouTube. Quoi.
En fait, on devient obnubilé par ça. Tu vois, je veux dire, moi, par exemple, le vendredi soir, quand mes amis m'appelaient pour me dire, vas-y, on sort, on se prend une bouteille, c'est 100 euros, je leur disais, 100 euros, c'est 3 mois d'abonnement sur Aweber. Qu'est-ce que je vais aller claquer dans une bouteille? En plus, je vais revenir, je vais être fatigué, j'aurai la gueule de bois, je vais démarrer à midi, j'aurai perdu 4 heures. Donc, il y a tout un process en fait qui se fait naturellement et en fait, il faut le faire, il faut laisser, euh, faut laisser faire le flow. Et c'est... Après, voilà, y a des cassures qui se font aussi. Par exemple, la télé, à un moment, j'avais plus le temps de regarder la télé, ça ne m'intéressait plus.
Puis on voit aussi que finalement, quelque part, tu es tombé amoureux de ton projet.
Ouais.
Et donc, tu as créé le temps comme si tu étais tombé sur l'amour de ta vie.
Ouais, ouais.
Ça t'a vraiment motivé et tu t'es mis à fond dedans. Quoi.
C'était mon bébé, vivre au Maroc.com.
Donc, ça, c'est vraiment un bon conseil à l'urbanisme intelligent. Ouais. Tomber amoureux de votre projet. Donc, déjà, faites quelque chose qui vous passionne.
Ouais. Mais c'est ça, parce que le projet, je l'ai lancé en me disant, OK, Gaston, tu as envie d'aller vivre au Maroc. C'est quoi tous les meilleurs conseils que tu pourrais te donner si tu veux aller vivre au Maroc? Et après, les gens, ils s'identifient un peu à ça. Et je pense que ça se ressent aussi dans les articles qu'on écrit. Et c'est vraiment du poussé, du détail, parce qu'on est vraiment passionné et amoureux de son projet. Voilà, amoureux, ça ne veut pas dire passer des heures à chercher la bonne police de caractère, quel est-ce que je mets en bleu, en vert ou en gris. Mais c'est vraiment se dire, OK, moi le matin, à 4h du matin, j'ai 3h55, j'étais là, je dis, allez, c'est bon, on va enfin pouvoir démarrer, vivement que ça démarre, tout ça et tout. Et après, à 7h, ma copine s'est levée, je dis, oh non, pas déjà. Donc on devient vraiment amoureux de son projet. Et donc voilà, première année, deuxième année.
Là, donc, d'accord, tu démarres,
ouais.
T'as mis combien de temps avant d'atteindre un trafic sympathique?
Je dirais qu'au bout de, allez, peut-être 6-7 mois. 6-7 mois parce que j'ai...
Qu'est-ce que tu as fait comme travail de promotion pour faire connaître ton blog?
Franchement, pas grand-chose.
Ça, c'est l'erreur classique du débutant.
Ouais,
hein. J'ai vraiment pas fait. Focaliser sur l'interne et du coup, ça met longtemps.
Ouais. J'ai vraiment, avec le recul...
Tu n'as même pas été sur les forums qui discutaient de voyager au Maroc?
Non.
Parce que c'était la base. Quoi,
je sais. Mais...
Donc, au bout de 7 mois, tu commences à avoir un bon trafic.
Ouais, au bout de 7 mois, je commence à avoir un bon trafic. Et
combien de personnes? Tu sais à peu près
l'année? Ouais, le site, il commençait à monter à 300, 400, 500, 600. Tu vois, c'était vraiment...
Par mois?
Non, c'était vraiment par mois.
Ouais. Ah oui, donc
c'était
ça reste quand même modeste. Hein.
Ouais, c'était très modeste. 700, c'était très modeste. Par contre, comme c'est vraiment une niche, c'est-à-dire l'expatriation au Maroc, c'est vraiment une niche. Hein. Et sur le site, au début, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Au début, je parlais de plans de voyage, alors que les gens venaient pour avoir des conseils sur la vie au Maroc. C'est deux audiences différentes. J'avais pas beaucoup de trafic, mais le peu de trafic que j'avais, il était très qualifié. C'est que c'était des gens qui avaient réellement un projet d'installation au Maroc dans les mois qui viennent, ou alors qui venaient tout juste de s'installer et qui avaient des questions. Donc peu de trafic,
donc,
mais
une intention
très qualifié.
Importante derrière.
Ouais, exactement.
Ça, c'est aussi important, les robots intelligents, pour déterminer la qualification d'un trafic. C'est, posez-vous la question, les gens qui tapent ce mot-clé, qui vont sur mon blog, quelle est leur intention d'achat derrière? Est-ce que c'est juste des touristes ou des gens qui veulent de la culture générale ou des gens qui veulent vraiment concrètement faire quelque chose et qui sont susceptibles d'acheter mes produits, mes services? Donc, en l'occurrence, effectivement, tu avais une audience très qualifiée.
Ouais. Non, c'est clair. Et puis, il y a aussi l'esprit communautaire, tout ça. Les gens s'entraident, partagent, échangent des informations. Ah non, moi, j'ai fait comme ci. Ah non, moi, j'ai fait comme ça. Donc ça monte comme ça au fur et à mesure, il y a une petite communauté qui se crée. Et puis après, ça évolue crescendo parce qu'on a la base de données mail qui grossit. Donc chaque nouvel article, on le promotionne aussi par mail. Donc il y a les anciens qui reviennent, qui repartagent, plus les nouveaux qui arrivent entre temps. Et ça grossit comme ça au fur et à mesure. Donc voilà, après j'ai commencé à me demander comment j'allais le monétiser. Au début, j'ai fait toutes les erreurs possibles. Je me suis dit, bah tiens, on va faire un peu d'Amazon, on va recommander des produits. Après, je me suis dit, qu'est-ce que je peux avoir comme produit en affiliation? Jusqu'au jour où je me suis dit, OK, bon, maintenant, on va passer aux choses sérieuses et on va créer un vrai programme. Et donc, j'ai créé le programme Nouvelle Vie au Soleil, qui accompagne toutes les personnes qui veulent réussir leur nouvelle vie au Maroc en prenant
ça, c'est la formation
le meilleur
qui,
des parcours
qui suit le blog. Quoi.
Exactement.
Ouais. Et donc, dès le début, tu avais mis ce qu'on appelle un lead magnet, donc c'est-à-dire offrir un bonus. Comme
exactement.
Un lead. Donc, ça, t'as quand même bien suivi des bons conseils.
Ouais,
c'est
ça,
bien.
Par contre, je l'ai fait.
Donc, tu avais un guide du genre les 5 astuces pour s'expatrier au Maroc.
C'était 7 bonnes raisons d'aller vivre au Maroc.
Voilà. Donc, ça permet donc de créer une liste de prospects qualifiés que tu peux contacter quand tu veux, très important.
Ouais.
Et donc, tu as fait un sondage pour déterminer le produit ou pas?
Ouais, j'ai fait un sondage. D'ailleurs, avant même de faire le sondage, j'avais créé d'autres lead magnets, donc d'autres bonus à offrir. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui voulaient aller vivre au Maroc, mais qui n'étaient pas intéressées par les bonnes raisons d'aller vivre. Elles étaient déjà convaincues. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des fiches synthèse, des articles qui cartonnaient le mieux en fait sur mon site. Et je leur disais, bah voilà, est-ce que tu veux récupérer la fiche synthèse sur la carte de séjour ou la fiche synthèse sur
c'était
la fiscalité?
Un bonus par article.
Ouais, exactement.
Ça marche bien, ça, en
général. Ça marche bien. Ça a complètement décuplé le nombre de personnes que je collectais. Parce que c'est des personnes qui sont qualifiées, elles veulent aller vivre au Maroc, mais le e-book de base, cette bonne raison d'aller vivre au Maroc, elles sont déjà convaincues. Donc elles se disent, ouais, ça sert à rien que je laisse mon mail. Mmh. Et potentiellement, c'est du trafic qualifié qui vient, qui repart sans laisser ses contacts. Donc, ça s'est passé comme ça. Et puis après, est venu le premier produit, donc Nouvelle Vie au Soleil. Et au début, j'ai eu ce syndrome où j'ai eu du mal à le pricer cher. Donc, au début, il était vraiment pas cher. Il était à 50, 100 euros. Tu vois, ce qui est aujourd'hui avec le recul, je me dis c'est quand même dingue de l'avoir commercialisé à ce prix-là. Et donc, sondage, j'ai compris tout ce qu'ils avaient besoin. Donc, il y avait une audience retraitée. il y avait une audience active qui partait au Maroc soit pour créer leur entreprise, soit pour chercher un emploi, soit pour différentes raisons, raisons religieuses, raisons familiales, parce qu'ils avaient envie aussi d'avoir des informations sur les investissements au Maroc. Et donc je l'ai lancé la toute première fois via un webinar. Donc là aussi, c'est
une très bonne manière de, ouais, de tester. Ouais. De...
Alors moi, j'adore la technique en plus, donc j'adore tester. Le souci que j'avais, c'est que je testais webinar, après je testais ça, après je testais ça. Et je pense que des fois, il faut arriver à rester vraiment focus sur une bonne méthode et bien l'approfondir.
Tu as testé trop de logiciels de webinar, c'est ce que tu veux dire?
Non, en fait, j'ai essayé par exemple, au début, j'ai essayé de le vendre uniquement par mail. Après, j'ai essayé les webinars. Après, je me suis dit, non, je vais faire un mini lancement, je vais faire des vidéos, je vais leur proposer tout ça. Et c'est bien parce que ça te permet d'apprendre. Mais au final, je me suis rendu compte que la méthode qui marchait le mieux pour moi, c'était les webinars. Parce que les gens, ils pouvaient interagir avec moi directement. Et c'est celle aussi où je prenais le plus de plaisir à leur proposer mon programme. Et donc voilà, premier webinar, j'ai commencé à ouvrir les ventes. Et ce qui est impressionnant, c'est ces personnes qui achètent le programme et réussissent à aller vivre au Maroc grâce à tes conseils. Alors que moi, à ce moment-là, j'étais encore en Alsace. Et du coup, ils partaient vivre sous le soleil du Maroc. Et puis, ils m'envoyaient des cartes postales chez moi en Alsace. Et c'est génial parce qu'on a le sentiment, au-delà bien sûr de l'argent qui rentre, on a vraiment le sentiment d'avoir impacté la vie de certaines personnes. Et moi, je vivais un peu mon rêve d'aller vivre au Maroc par procuration avec elles, quoi. Et ça, c'était... Moi, quand des fois je recevais des cartes postales, je me mettais à chialer chez moi.
Parce que tes clients t'envoyaient des cartes postales du Maroc, ils disaient merci
ouais,
pour
c'est
tout.
Ça. Merci pour tes conseils.
Merci pour le soleil et tout.
Merci
et toi,
beaucoup.
T'étais à Strasbourg
mais ouais,
avec les corbeaux
à Strasbourg,
et
les corbeaux. Voilà. Donc, mais j'étais heureux, tu vois, j'étais vraiment heureux. C'est là qu'on se dit qu'on fait un métier qui est génial parce que t'impactes vraiment la vie de personnes, quoi.
Mais alors, du coup, donc, le programme, t'as commencé à le vendre combien de temps après avoir créé ton blog?
Je crois que je l'ai démarré au bout de 2 ans à peu près comme ça.
Au bout de 2 ans? Ah oui, quand même.
Ouais, j'ai vraiment mis beaucoup de temps. Ouais.
Et t'avais une liste de combien de personnes à cette époque-là?
À ce moment-là, je crois que je devais en avoir, aller peut-être dans les 1500.
Ah oui, d'accord.
Ouais.
Et quel est le chiffre de vente que tu as fait à ce moment-là?
Pas énorme, pas tant que ça. Pas tant que ça. Je crois que j'ai dû faire à peu près dans les 1000 euros. Voilà, à peu près dans les 1000 euros. Comme
ça. T'étais content ou pas?
Bien sûr, j'étais super content.
Déjà,
la première notification de paiement, je me suis dit, allez, je vais au resto, je célèbre ça. Bon, j'avais fait rentrer. Il était vendu même en ultra early bird, en promo de chez promo. J'avais récupéré 50 euros, j'ai claqué 100 euros au restaurant. Donc... Mais on est content, on est heureux.
T'as fait péter le champagne,
ouais.
Tout ça.
Mais ouais, non, mais c'est génial, tu vois. Okay. Parce qu'une fois que tu sais comment ça marche, après, tu dis, c'est bon, je connais la recette et ça y est, ça va le faire, ça va le faire. Et en fait, c'est vraiment par étapes, tu vois. Tu montes, tu as tes premiers mails, tes premières ventes, tes premières sollicitations, tout ça. Et c'est une aventure à vivre. Et moi, je pense qu'il faut vraiment kiffer en fait chaque étape et pas se dire, oh là là, j'ai hâte de faire mes premiers euros. Non, il faut vraiment kiffer chaque étape et tout. Parce que chaque étape, la première fois qu'on met un article en ligne, on est un peu stressé et on kiffe, on a une petite montée d'adrénaline. Les premières ventes, on kiffe aussi. La première vidéo qu'on met sur YouTube, ça fait un peu bizarre. Et quand on a les premiers likes, les premiers commentaires, tout ça, c'est…
Les premiers haters.
Les premiers haters.
T'as eu des haters aussi?
J'en ai énormément.
C'est dingue ça, juste sur le fait d'aller vivre au Maroc.
Ouais, j'en ai beaucoup parce que… Il y a des personnes qui m'ont traité de recruteur pour Daesh, hein, des personnes wow. qui m'ont insulté. Il y a de tout. Mais
voyez,
ça fait
gens,
partie du jeu. Ça fait partie
même
du
demain,
jeu.
Si vous faites une association pour sauver ouais. les hamsters nains du Pérou, ouais. vous allez avoir des gens qui vont trouver des trucs pour dire que vous êtes un grand méchant et que à cause de vous, l'humanité va périr.
Ça fait partie du jeu. Hein, ça fait partie du jeu. Au début, ça fait un peu mal parce qu'on se donne à fond et on part vraiment d'une bonne intention. Mais bah voilà, il y a des personnes qui n'ont rien d'autre à faire que de laisser des commentaires comme ça. Donc ça fait partie du jeu, il faut l'accepter. Et c'est pas grave, il faut focusser sur… Moi, j'avais les cartes postales que je recevais de la part de clients, elles étaient sur mon bureau. Et voilà, c'est ce que je voyais le matin.
Tu permettais de voir
ouais, le matin,
la contribution
avant de démarrer.
Que t'as apporté.
Exactement. Le matin, avant de démarrer, j'avais ça. J'avais d'autres trucs à côté aussi avec mon petit vision board, tout ça et tout. Et c'est pas grave, c'était ça qui me motivait, tu vois. C'est ça qui me motivait. Et donc voilà, le site après, il a commencé à décoller. Après, on a commencé à passer sur du récurrent, sur du 1000, 2000, 3000. Après, c'est un certain…
Par mois?
Ouais, par mois.
Et alors, à partir de quelle somme tu t'es dit, ok, c'est bon, je quitte mon job?
Alors là, tu vois, c'est pareil que pour le lancement. En fait, il y a encore un cumul d'événements qui arrivent dans ta vie qui fait que tu as encore cet électrochoc où tu te dis, ok, est-ce que réellement maintenant je passe ou je continue d'attendre? Parce que là, le site était arrivé à peu près à 3000 euros par mois. Et je me posais cette question. Je me disais, ok, j'ai démarré pour pouvoir aller vivre au Maroc. Maintenant, j'ai suffisamment pour aller vivre au Maroc. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je quitte l'entreprise alors que je suis quand même bien payé, j'ai des primes, j'ai des chaussures offertes, j'ai tout un tas de choses. Et en fait, on se pose la question, on est un peu dans une espèce de cage dorée, on se pose beaucoup la question. Et c'est pareil, c'est un ensemble de choses qui fait que, en interne, il y a une restructuration. Donc on m'avait proposé un autre poste où il fallait être mobile géographiquement et ça a commencé à me faire cogiter. Il y a eu aussi le fait qu'à ce moment-là, je peux le dire, hein, j'ai commencé à me prendre la tête avec mon ex-copine de l'époque, tout ça et tout, qui, elle, voulait absolument rester là où on était. Elle venait de signer un CDI dans son entreprise et tout. Et pour moi, en fait, voilà, je voulais vraiment passer à autre chose, découvrir cette nouvelle vie. Et le site commençait vraiment à décoller. Donc, j'ai saisi l'opportunité. On a rupture conventionnelle. Et c'est là que cette nouvelle vie a démarré. Et c'est impressionnant parce qu'on arrive même...
Et donc, tu étais à quelle somme de vente à ce moment-là?
3000 euros.
3000 euros,
ouais,
ok.
C'est ça, donc, c'est 3000 euros.
C'est un bon... Et tu savais que tu avais une bonne visibilité, tu savais que ça continuait, ouais. Etc.
En plus, on a la chance en France, tu vois, de pouvoir bénéficier aussi d'aide pour les créateurs d'entreprises.
Tu as créé ta boîte et tu as pu maintenir ton assurance chômage, c'est ça?
Exactement.
T'es assédique.
Exactement. Ouais, exactement. Donc, du coup, c'est une rupture conventionnelle. On arrive chez Pôle emploi. Et là, d'ailleurs, c'est un autre monde parce qu'il y a des personnes qui sont chez Pôle emploi parce que elles ont perdu leur job et pour elles c'est la fin, elles sont déprimées, elles sont pas bien.
Alors que ça peut être le début d'une nouvelle aventure.
Exactement, mais moi je suis arrivé, j'étais en mode j'étais content. donc ça s'est fait vraiment étape par étape. Et jusqu'à là au niveau chronologie, on est à l'année dernière. Et du coup voilà, c'était le début d'une nouvelle vie, installation au Maroc. Appartement.
Combien de temps il s'est passé entre ta démission et ton installation au Maroc?
3 ans et demi à peu près.
Non, entre ta démission.
Ah, ma démission, pardon. Ouais. J'ai expliqué à ma manager que je voulais quitter. Je crois que c'était à peu près au mois de mars. Et du coup, on a signé la rupture conventionnelle et elle était active entre mai et juin.
Voilà. Et quand est-ce que tu arrives au Maroc?
Et je suis rentré au Maroc au mois de juillet.
Donc ça n'a vraiment pas traîné.
Ah non, j'avais pas le temps. Non, j'avais
pas le
temps.
C'était juste, t'en pouvais
ça
plus.
Ça y est, c'était le début d'une nouvelle vie. Je suis rentré, j'étais tellement heureux dans l'avion. Dans l'avion, franchement, j'ai l'habitude de prendre des avions entre le Maroc et la France. Mais ce vol retour, c'était le vol que j'attendais depuis 3-4 ans. Et c'était le billet d'avion pour lequel j'ai bossé quand même malade pendant autant d'années. Tu vois. Et ce billet d'avion, pour moi, il avait une saveur exceptionnelle. Puisque tu es là, tu rentres dans le cockpit et tu dis, tu lâches une boule. Tu dis, ok, c'est cool. On l'a fait. Allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et déjà, tu te mets vraiment à kiffer ce moment-là parce que tu te dis, ok, c'est vraiment pour ce moment-là que j'ai bossé pendant autant d'années, tous ces réveils à 4 heures du matin, toutes ces soirées que j'ai pas fait. Et là, il y a plein de petits flashbacks qui se reproduisent, tout ça et tout. Mais on kiffe. Chaque étape, faut la kiffer, quoi.
Exactement. Et donc là, aujourd'hui, tu vis près de Casablanca.
C'est ça,
mais tu as comme visé un petit village de pêcheurs près de Agadir, c'est
ouais,
ça?
Ouais, près d'Agadir, je peux le dire, hein, c'est à Imswan, où je prévois de m'installer là dans pas longtemps.
Est-ce que c'est tout mignon, c'est ça?
Ouais, c'est un petit village de pêcheurs. On est bien, il y a une énorme baie, on est face à l'océan. Les pêcheurs, ils arrivent, ils rentrent du port, ils te vendent le poisson, ils te le font griller sur place. Il y a de la connexion 4G, on peut bosser tranquillement en partage de connexion. Ça va être mon petit coin de paradis.
Et donc tu as ce premier business qui marche toujours bien, qui te permet déjà de bien vivre, hein, d'autant plus au Maroc, où le coût de la vie est quand même moins élevé qu'en France.
Complètement.
Et tu as lancé en plus de ça un deuxième business en parallèle,
c'est ça,
donc tu peux nous en parler rapidement.
Bien sûr. Donc j'ai lancé un deuxième business, donc le site internet c'est gastonlast.com, donc L-A-S-T-E-S, tout attaché. Et j'accompagne en fait des indépendants. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que tout le temps que j'ai passé pour développer mon propre business en ligne, on se rend compte que c'est un investissement temps qu'on fait également sur ses propres compétences parce qu'on monte en compétences. Et même au-delà des compétences qu'on acquiert, je pense que c'est important de le préciser, c'est que au fur et à mesure que votre business il évolue, que vous apprenez beaucoup de choses, il y a aussi votre état d'esprit qui évolue. Et en 3 ans et demi, 4 ans, tout ça, il y a aussi tous les livres qu'on lit, il y a aussi tous les tutos, toutes les vidéos qu'on regarde. Et en fait, l'état d'esprit évolue en même temps que son business. Et il y a une grosse corrélation entre les deux. Et du coup, moi, j'ai des amis qui m'ont contacté en me disant « Mais tiens, t'as réussi à faire 3 3000 euros avec ton site, est-ce que tu peux m'aider à mettre une page de paiement en place, est-ce que tu peux m'aider à mettre un tunnel de vente en place? Et du coup, ça s'est passé comme ça. Et puis, on a démarré. Je me suis spécialisé sur certains outils comme ClickFunnels, que tu dois connaître. Et du coup, voilà, on se met à aider une première personne, une deuxième, une troisième. Et puis, sans s'en rendre compte, on se rend compte qu'on est devenu digital marketeur vraiment par passion. Et du coup, je me suis mis à
accompagner. C'est la base pour ton propre business, de toute façon.
Exactement. Exactement.
Donc là, on a vraiment un cas d'école parce que voilà, tu étais dans la rat race.
Ouais.
Donc tu avais un job qui n'était pas non plus horrible,
non,
clairement, tu t'épanouissais pas dedans.
Exactement.
Et puis c'est intéressant parce que finalement, c'est quand même le type de job qui fait rêver pas mal de personnes parce que c'est quand même une bonne situation, c'est une boîte sympa. Ouais.
Les premiers mois étaient cool, on va pas se mentir. Mais au bout d'un moment, on se lasse. Tu vois, on se lasse.
Et bon, voilà, bon, ok, Strasbourg, ça fait pas rêver, mais c'est pas non plus le pire endroit du monde, quoi.
C'est clair.
C'était pas dans une ville industrielle, pourrie, etc., en banlieue ou quoi que ce soit. Ouais. Et donc, bon, voilà, situation normale, mais voilà, avec une certaine frustration.
C'est ça.
Et puis derrière, bah, tu te décides de bouger, tu commences à te former sur le sujet, tu te focalises sur une de tes passions. Bon, là, en l'occurrence, tu n'as pas fait tout parfaitement. Tu n'as pas analysé bien l'étude de marché, mais coup de chance, il y a aussi un marché, un potentiel économique. Donc attention les rebelles intelligents, la passion c'est bien, mais il faut aussi que ça soit corrélé à un potentiel économique.
Ouais.
Et là, bah, tu te lances de manière imparfaite, tu fais des erreurs au début avec tes parents qui voient le blog et qui trouvent ça génial.
Ouais.
Et tu te développes au fur et à mesure, tranquillement, en développant tes compétences, ta présence, tu démarres ta chaîne YouTube seulement 2 ans après.
Ouais.
Bon, et plein d'autres choses comme ça. Alors que j'imagine que quand même, ce domaine-là, c'est quand même très visuel. Tu peux montrer des coins du Maroc sympas.
Bah, tu sais,
il y a de quoi faire des vidéos, je veux dire.
Mais j'habitais en Allemagne, j'habitais après Strasbourg,
en
Alsace, je faisais souvent, tu vois, t'es constamment sur la route, t'es constamment en déplacement.
Et t'avais peut-être ce syndrome de l'imposteur.
J'avais le syndrome de l'imposteur, au début j'aimais pas le son de ma voix, la première vidéo que j'ai postée c'était en Alsace, tu vois, et il y a des personnes qui ont reconnu le Rhin derrière moi, et ils m'ont dit mais tu fais des vidéos sur le Maroc, pourquoi il y a le Rhin derrière toi, tout ça. Donc en fait, et même ce que je faisais, c'est que des fois, souvent quand je partais en vacances au Maroc pour voir mes parents, bah voilà, j'avais deux semaines de vacances, mais du coup je passais 4 jours où j'y allais et je tournais plein de vidéos. Après voilà, quand je rentrais en France, bah du coup après je les distillais, je les lâchais vraiment au fur et à mesure. Mais c'est vraiment un marathon et j'ai mis beaucoup de temps et je regrette avec le temps. Je me dis j'aurais dû me lancer beaucoup plus tôt.
On est tous comme ça parce qu'avec les compétences qu'on a aujourd'hui, si on devait refaire de zéro, on irait beaucoup plus vite, c'est évident.
C'est aussi
parce qu'on a des croyances limitantes qui ont sauté.
Exactement.
Alors tu peux rester bloqué pendant des mois sur un truc mais tellement stupide, mais tu t'en rends compte qu'après en fait. Typiquement, j'ai peur de faire des vidéos, etc. Bon, en l'occurrence, c'était aussi parce qu'effectivement, tu n'étais pas dans le bon environnement. Mais quand même. Ok, bah écoute, c'est super intéressant. Donc pour les gens d'ailleurs qui veulent peut-être s'établir au Maroc, on ne sait jamais. Donc
bien
ton
sûr.
Site c'est
vivreomaroc.com.
Et pour les gens qui sont plus intéressés par le côté.
Gaston Last, LASTES.com.
LASTES.com. Ok. Bah écoute, merci, super. Pour terminer, parce que là, l'interview a duré un certain temps, je pense qu'on est à 30 minutes, 40 minutes là.
Ouais.
Tu vois, les gens qui sont encore là, ils sont ultra motivés, ils sont chaud patate. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil pour se lancer et cartonner sur le web comme toi?
Alors, je pourrais vous en donner plein, des conseils, de bien vous entourer. Enfin, des conseils, on peut en donner beaucoup. Mais c'est vrai que souvent, quand je discute avec des personnes qui se lancent, elles me disent, est-ce que tu peux me donner le vrai conseil, celui que je vais trouver nulle part?
V1
Celui qui est le secret caché des dieux, tout ça. Et je leur dis, écoute, le vrai, c'est juste que tu passes à l'action. Et il n'y a que ça, ça se limite à ça. Forme-toi, d'accord? Et passe à l'action. Ne mets pas 10 ans à te former, tu vas faire des erreurs, c'est pas grave, tu apprendras en cours de route, mais lance-toi et passe à l'action. C'est vraiment le truc à faire. Et après aussi de bien vous entourer, parce que moi, pareil, je me suis entouré de quelques entrepreneurs qui démarraient. Et le soir, ben, on se faisait des Skype, les galères qu'on avait. Il y a des soirs, on était en mode chez les anonymes, on était là, oh là là, ça décolle pas, qu'est-ce que je fais chez toi? Non, ça décolle pas. Mais c'est pas grave parce qu'on se stimule, on échange et on commence au fur et à mesure aussi par rencontrer de nouvelles personnes qui sont inspirantes, motivantes. Donc allez les rencontrer, allez échanger avec eux, prenez-vous un coup de boost et après il faut passer à l'action quoi. Et choisissez quelque chose qui vous stimule, qui vous motive. Moi, vivre au Maroc, j'en rêvais matin, midi et soir. J'avais hâte de me lever et de... Tu vois, j'en parle là, ça me met la niaque. Donc choisissez un sujet qui vous fait vibrer et allez-y, passez à l'action.
Bah écoute, merci beaucoup Gaston d'avoir partagé tout ça.
Yes, avec plaisir.
Voilà, un parcours très inspirant et j'espère que ça va aussi vous motiver.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur? laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez dans le podcast, tout simplement. Ça aidera d'autres rebelles intelligents comme vous à trouver le podcast et puis à être inspiré tous les jours ou presque par lui. Merci et à très vite pour de nouvelles aventures.